Et voici la revue de presse des journaux français puisqu'il est 8h23 à Paris. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, Red dingue.
Oui, Reds comme les rouges de Liverpool bien sûr, et dingue comme cet incroyable demi-finale retour de la Ligue des Champions hier soir. Reds dingue donc, s'époumonne l'équipe ce matin en première page. Le quotidien sportif n'en revient toujours pas. Les mots manquent vraiment pour décrire l'ambiance qui a régné à Anfield hier soir. C'était frappadingue, majestueux, surréel. Au coup de sifflet final, on a vu des stewards perdre le sens commun et se jeter dans les bras des supporters. On a vu Jamie Carragher, un ancien de la maison, reconverti consultant, effectuer des sauts de cabri au milieu de la tribune de presse. On a vu Jürgen Klopp, extatique, se diriger lentement vers le COP pour partager un bonheur qu'il semblait avoir du mal à concevoir. Auparavant, pendant une heure et demie, nous rappelle l'équipe, les fans du Liverpool Football Club avaient hurlé comme des décérébrés pour pousser leurs joueurs, contribuant dans les grandes largeurs à ce que ceux-ci réalisent le plus grand exploit de leur pourtant très riche histoire européenne, éliminer le Barça de Lionel Messi en les battant 4-0 après avoir perdu à l'aller 3-0.
Un exploit monumental, renchérit le Figaro.
Anfield en a rêvé, Liverpool l'a fait, largement défait en demi-finale aller de cette Ligue des Champions la semaine dernière au Camp Nou. Les hommes de Jürgen Klopp ont donc renversé la situation de manière incroyable devant leur public et se qualifient pour leur deuxième finale consécutive en Ligue des Champions. Pourtant privés de leurs deux attaquants majeurs, Mohamed Salah et Roberto Firmino blessés, les Reds sont allés puiser au fond de leurs ressources pour créer l'exploit, aidés par un public bouillant et exemplaire. Inimaginable, magnifique, prodigieux, s'exclame le Parisien. 14 ans après le miracle d'Istanbul, en finale de la Ligue des Champions face à l'AC Milan, voici pour Liverpool le miracle d'Anfield. 2 ans après la célèbre remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, le club catalan est lui aussi victime d'une remontée fantastique qui restera dans la légende de la Ligue des Champions.
À la une également, ce 8 mai, les élections en Afrique du Sud.
Cyril Ramaphosa, un caméléon pour rebâtir la nation arc-en-ciel, c'est le grand titre de Libération. Le président sud-africain en poste depuis maintenant un an devrait rester en place après les élections de ce mercredi, pointe le journal. Ancien proche de Mandela, puis businessman, il a la lourde tâche de redorer le blason de l'ANC terni par la corruption et de redonner espoir à un pays en pleine crise. En effet, précise Libé, l'ancien mouvement de la lutte anti-apartheid traverse sa pire crise depuis l'avènement de la démocratie. Lors des élections municipales d'août 2016, rappelle le journal, le parti hégémonique avait essuyé un revers cinglant, 54%, son score le plus bas, et avait perdu le contrôle d'une série de municipalités emblématiques comme Johannesburg ou Pretoria au profit de l'opposition. Certains électeurs devraient revenir vers l'ANC, mais ils voteront surtout pour Ramaphosa, estime une politologue sud-africaine interrogée par Libé. C'est un des arguments majeurs de sa campagne, un nouvel ANC vertueux, un parti transformé qui mérite à nouveau la confiance de la population.
Et Libération de s'interroger, Cyril Ramaphosa peut-il tenir ses promesses?
Le président a très certainement de bonnes intentions, affirme l'analyste politique Ibrahim Fakir, mais la pourriture est tellement ancrée à tous les niveaux, jusque dans les municipalités, qu'il est impossible de faire place nette rapidement. Le chef de l'État a aussi du mal à relancer une économie mal en point, à réduire le chômage endémique qui touche plus d'un quart de la population et les profondes inégalités qui minent la société. Malgré les critiques, l'ANC est certain de sortir vainqueur de ce scrutin et devrait conserver une confortable majorité au Parlement. Mais c'est peut-être, conclut Libération, la dernière chance qui lui est donnée de renouer avec ses idéaux.
La baisse des impôts en France. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'explique ce matin dans les colonnes du Parisien.
Je peux vous dire que la quasi-intégralité des 17 millions de foyers qui paient l'impôt sur le revenu sera concernée, affirme Gérald Darmanin. En moyenne, environ 300 euros par foyer et par an, mais c'est simplement un ordre de grandeur, parce que nous ferons en sorte que la baisse d'impôts soit plus importante pour les classes moyennes que pour les personnes qui ont des revenus plus élevés. Alors reste une question, comment financer ces baisses d'impôts? Dans les couloirs de Bercy, pointe le Parisien, les cols blancs s'arrachent les cheveux pour trouver l'équation qui maintiendra le budget à flot, car trouver 5 milliards d'euros n'est pas si aisé. Ces derniers jours, relève le journal, Emmanuel Macron, suivi par plusieurs membres du gouvernement, a évoqué des pistes pour éponger le cadeau fiscal. La principale, celle où le gisement est le plus abondant, la suppression de certaines niches fiscales accordées aux entreprises chaque année. En effet, c'est un manque à gagner d'environ 86 milliards d'euros pour l'État.
Ce 8 mai, en France et dans d'autres pays, marque la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Et retour sur l'Arc de Triomphe, ce matin pour Emmanuel Macron, qui ranimera la flamme et rendra hommage aux anciens combattants de notre Sud-Ouest. La dernière fois, c'était le 11 novembre, 6 jours avant la première manifestation des Gilets jaunes et 3 semaines avant la profanation du Monument National. Souhaitons que ce 8 mai referme enfin cette longue parenthèse, s'exclame Sud-Ouest, mais ce jour de la victoire sur l'Allemagne nazi doit surtout donner l'occasion de s'interroger sur le destin de l'Europe et sur l'état du couple franco-allemand. En effet, complète Ouest-France, l'Union européenne est fragilisée. Les bouleversements du monde inquiètent les peuples, les divisions ressurgissent, des forces destructrices soufflent sur les braises. En France, alors que l'entente franco-allemande est la pierre angulaire de l'Europe, certains tentent de raviver la haine. La construction européenne est inachevée, constate encore Ouest-France. À l'image des cathédrales construites de siècle en siècle, elle appelle une génération de bâtisseurs pour que la paix, la liberté, la démocratie, célébrées en ces jours, continuent de rayonner en Europe et dans le monde. C'est tout l'enjeu, conclut Ouest-France, des prochaines élections européennes.
La revue de presse signée Frédéric Couteau a retrouvé en ligne à suivre l'actualité africaine.